création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. C'est comme un envoûtement. Comment expliquer la rémanence de cette chanteuse dans l'imaginaire du documentariste de ce soir? On sait d'elle que son disque Salon de musique fait suite à des études de piano au Berklee College of Music. On sait d'elle qu'elle est liée à la scène New Wave de Los Angeles. On sait d'elle qu'elle a disparu en effaçant ses traces. Demeurent les pochettes de Suburban Loans et sa voix aux capacités rauques et excentriques. Demeure un film de Jonathan Demme, Something Wild, présenté à Cannes en 1987. Est-elle devenue avocate, comme le dit la légende? Suzanne McLean laisse sans réponse les appels qui lui ont été lancés. Sue Tissue, par Guillaume Lingre et Céline Terce, création On Air.
Je n'ai encore jamais connu Dieu vert, car je n'ai pas tes yeux. Mon attente n'a pas grandi du tout. Moi, cette journée sans fin. Pigment gris au deuxième étage. Mon ami est mort hier soir ou a tenté. Les lumières ne sont pas mal pour un si petit endroit. Il pose avec sa fameuse grosse tête. Je sais que vous êtes un esprit malin. Les nuances dans le genre vénitien sont dessinées en bas aveugle, car seules les lignes ont des ombres dans les angles. Je n'ai encore jamais connu Dieu vert, car je n'ai pas tes yeux.
Non-Puff, the premier issue, which interviews the police, suburban lawns, and the gun club. Regular features this month include pre-record with the Whirlybirds and discontents with Keith Morris of the Circle Jerks.
We all kind of drag each other around, I guess.
Yeah.
You have to. Either, well, yeah, I would say more than the other direction.
Mm-hmm. C'est une sous-tissu, mais alors très, très sombre quand même. Une sous-tissu tourmentée, non, une sous-tissu avec plein de... C'est des collages et puis des pierres, du feu. C'est une toile d'araignée ou des petits nids, oui, des petits nids d'abeilles, j'en sais rien, qui la remplit complètement et autour d'elle, c'est, oui, c'est assez sombre, c'est du noir. Bon, on peut imaginer qu'elle danse un peu. Bon, en tout cas, il y a une sorte de mouvement. Et puis... Une tête quand même coupée aussi. Oui, c'est un peu violent la tête coupée. Elle est un peu, oui, elle est un peu démantibulée, quoi. Les yeux sont blancs, elle n'a pas d'œil. Oui, elle en a eu et ils ont été enlevés. C'est ça, on dirait qu'elle a... Elle n'a plus de regard. Oui, elle n'a plus de regard. Ils ont été effacés. Puis... Les bras, pas de jambes, si elle est coupée au tronc.
Sue Tissue, la captive.
Your eyes have not yet been known to me, for I have not your eyes. My waiting has not yet been gone at all. Oh, this endless day, big and gray on the second floor. My friend died last night or tried. Nights are not bad for such a small place. He's posing like he's quite big-headed. I know you're a hog for mine.
For the best in vintage clothing and top quality alteration.
Straight jacket
clothing. 8046 West 3rd, ouais. Los Angeles.
Elle est belle cette image en plus. Une très grande photo de Suburban Loans, un poster en fait. C'est rare maintenant d'avoir des posters de groupe. Il n'y en a plus. Avant, on a acheté des magazines, il y en avait dedans. Alors, qui y a? On connaît Sue Tissue, mais en fait, les quatre autres là qui sont sur la photo, on ne peut pas dire leur nom. Hein. Ils sont cinq. Donc Sue Tissue au milieu qui porte une robe à fleurs, qui doit sans doute être colorée, mais on ne le voit pas. Et alors une robe avec une sorte de grand col retourné et des grandes manches, comme des... Je sais pas, ça me fait penser à une sorte de truc de samouraï. Personne ne regarde devant, ils regardent tous quelque chose sur la droite. Elle a toujours l'air un peu boudeuse, ouais.
Je
trouve qu'elle fait très jeune aussi. Mais elle est très jeune, en fait. Elle a 17 ou 18 ans. Alors que les autres autour ont l'air d'être plus vieux.
Green eyes have not yet been known to me, but I have not your eyes. My waking is not yet been known to me.
Moi, je dirais sous tissue. Tissue. Je pense que c'est étrange. Et c'est étrangement intéressant.
Théo Acola.
Une partie de l'intérêt, c'est le côté étrange. Ce qui me frappe le plus, c'est le pince sans rire. On dirait en anglais deadpan. Her delivery is completely deadpan. Et ça, ça me plaît. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. Elle n'épouse pas les évidences. Elle ne sourit pas. Je l'imagine pas trop connectée avec le public.
This is Sue Tissue, also of the Suburban Lawn.
Ça fait déjà plusieurs années qu'on fait des recherches autour des femmes dans ce type de musique, et à cette époque, c'est-à-dire la fin des années 70, début des années 80, dans le post-punk et le punk. Et donc on a défriché beaucoup de disques, et avec beaucoup de chanteuses et de groupes entièrement féminins ou pas. Et donc forcément on est tombé à un moment sur ce tissu.
Constance Leget.
C'est une figure vraiment singulière dans ce milieu-là qui rassemble beaucoup de choses qui se passent à cette époque, c'est-à-dire des choses entre le côté un peu expérimental, plus l'accoutrement, plus l'attitude. C'est peut-être aussi là pour ça que c'est une figure intéressante, c'est qu'elle caractérise bien en fait les femmes à cette époque-là, et que ce soit dans l'utilisation d'instruments un peu particuliers, ou alors, qui caractérise ce genre de musique et les femmes qui font ce genre de musique à cette époque-là. Les libertés qu'elles prennent aussi dans la manière de s'habiller, parce que c'est ça aussi, je relisais encore là une photo où elle a un casque de pompier à l'envers rouge, un imperméable en vinyle blanc, des fois c'est plutôt des robes d'écolière, enfin, c'est un peu tout mélangé, donc il y a ça, et puis il y a aussi l'attitude un peu théâtrale, l'expérimentation aussi dans la voix, prendre des libertés à ce niveau-là, elle rassemble un peu tout ça, et du coup elle fait une très belle figure symbolique des femmes dans cette musique.
The Brainiacs, Sue Tissue à la basse.
Tu veux, t'as Hollywood qui est un peu des gens qui ont plus d'argent, des écoles meilleures, et donc des gamins qui sont influencés par le punk anglais, et tout ce côté plus branché en fait, par des magazines, par l'accès aux médias. Et t'as des gamins, enfin des ados de banlieue, qui eux ont compris du punk simplement qu'il fallait jouer vite. Qu'il y avait un côté, c'est mené d'abord par des surfeurs, mais on est loin de l'image des surfeurs à la Beach Boys, c'est un peu les mauvais garçons là-bas. C'est des gens qui passent leur temps à la plage, qui vivent en gang, qui dépouillent les gens, qui se défoncent tout le temps. Pour eux, c'est concert punk, c'est jouer vite, se bastonner. C'est des petits gangs, quoi. Très kids, anti-look, anti-branché, anti-Hollywood, mais aussi, ce qui est moins beau, anti-gay, anti... comme des skin sans le mouvement nationaliste, quoi, mais c'est des gamins qui veulent en découdre, quoi. Donc t'as cette scène qui se monte autour de Black Flag, qui a des groupes très emblématiques comme les The Adolescents, The Germs, Circle Jerks. C'est quand même une musique assez brute, assez sans fioritures, qui est restée quand même assez une musique de niche, parce que à part 2-3 morceaux de Black Flag et 2-3 morceaux des Adolescents et machin, il reste pas énormément de choses de cette musique. Ils étaient tous regroupés autour d'un squat qui s'appelait The Church, où ils vivaient en espèce de communauté autour des Black Flags, et ils organisaient des concerts, mais qui étaient régulièrement ratissés par les flics et les histoires de drogue. Et ils étaient très, en fait, c'était toute une scène qui était très harcelée par la police de Los Angeles.
Thank you. Suburban Lawns. I bring you, we bring you Suburban Lawns. Frankie, Vex, Sue Tissue, John, and Chuck Roast. I was trying to get that pause, it was part of his name, but...
Le journaliste présente les Suburban Lawns qui viennent de jouer. Frankie, Vex, Sue Tissue et Chuck Roast.
We're afraid the 60s are going to come back and we're trying to avoid that. A lot of bands are looking for that and we're trying to throw it into the sea.
When you say that, what do you mean by the 60s?
The style of music, the whole sensibility.
You mean the way that some of the new wave bands refer to surf music and that kind of thing?
Well, we're not anti-surf at all, we're pro-surf, but...
that surfers rule the high school, right?
Right, right. Surfers are, they're happening, but it's the music of the surf age that's sort of stagnating, it's coming back.
Le groupe, dans cet entretien, se distancie de la musique californienne des surfeurs, qui n'est pas assez moderne à leurs yeux.
Do you think that you are progressing, that there's a sense of evolution that you as a person are?
As a person, sure. I'm evolving towards complete schizophrenia.
Which we've been talking about many times, this whole idea of the duality in two parts. I'm blocking who? The band?
I'm blocking the lady.
Sue, okay, I'll show you something that's very unique. Inflatable pants. Blown up by the band earlier.
Puis le journaliste leur demande si eux sont modernes et relève la jupe gonflable que porte Sue Tissue, tellement originale.
Thinking. Have you experienced pain in your life? I know you have. I can see it in your eyes. No, real pain. And how do you use that pain to put it into the music to send out a message to people?
Oh, well, I try not to. I try to concentrate on the positive.
Here's a band.
Good feelings. You know, I don't want to remind myself of that pain. I want to be done with it, you know, and not dwell upon that.
Into freedom with Suburban Lawns.
Sue Tissue, quant à elle, refuse de s'exprimer.
Sue. She doesn't talk, I was told that.
Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là. Oh! C'est une jupe où on peut boire dedans, un truc comme ça? Ah, c'est une jupe gonflable! Mais oui, c'est une jupe gonflable. Alors une jupe gonflable, ouais. Oh! Et alors on voit les autres en train d'essayer de la gonfler, mais oui, parce que ça demande un peu de... La jupe gonflable, je n'avais jamais vu ça non plus. Et à côté, bah là, au piano. Elle sourit aussi, là. Et là, en concert, oui, on voit surtout le public, on la voit juste en petit.
Je pense qu'il y a toujours dans cette musique ou cette mouvance un côté craché dans la soupe. Il y avait une phrase dans une chanson de Clash qui était « I hate the politeness », alors que moi je trouve que c'est plutôt sympathique. La politesse en Angleterre, ça m'a un peu surpris. En plus, je venais de New York à l'époque, alors que je n'ai aucunement grandi à New York. Je trouvais que la politesse était sympathique et... C'était une manière un peu de dire « allez vous faire foutre », de dire « I hate the politeness », basta la politesse. Je pense que l'équivalent peut-être en Californie, c'était de cracher sur le soleil. Donc vraiment cracher dans la soupe, parce qu'en Californie du Sud, où j'ai vécu 6 ans, on est gâté par le soleil. Et à un tel point que d'où je viens, où j'ai grandi, il faisait très très froid en hiver avec plein de neige et très très chaud en été. J'étais en manque de saison au bout d'un moment. Au début, je trouve ça éclatant d'être en t-shirt en janvier et prendre le soleil et lire le journal à l'extérieur de la maison, etc. C'était vraiment bien. Mais j'ai fini par être en manque, mais peut-être juste parce que mon organisme était formé autrement. Il y a peut-être ça un peu dans le punk de Californie du Sud. Il y a sans doute une manière un peu de se moquer de tout ce qui est bon. Tout ce qui est prisé, tout ce qui fait que les retraités finissent en Arizona ou en Californie du Sud, etc., par besoin de soleil. Donc, c'est des choses, à la limite, qui plaisent aux vieux et qui ne sont pas faites pour peut-être plaire aux jeunes, ou en tout cas, les jeunes un peu révoltés peuvent finir par dire « c'est pas notre truc, ça », donc cracher dans la soupe. La soupe étant à un temps magnifique.
Non-class will continue on side 2.
Alors moi j'adore ce disque The X de Los Angeles. Et alors tu vois, groupe avec filles qui chantent. Bien sûr, le producteur, notre ami Ray Manzarek, quand même.
Eric Steele.
X, le symbole de Los Angeles. En feu, comme une croix du Ku Klux Klan. Noire. Une croix qui brûle dans la nuit, quoi. Los Angeles écrit en rouge, en sang, en lettres de sang, quoi. Ça me fait penser à un truc de... ce groupe qui avait fait The Battle of Los Angeles, Rage Against the Machine, enfin, tout un côté d'émeute à Los Angeles, et ben c'est tension avec les communautés. Attends, alors vas-y. Ex-Los Angeles.
Fire 6 shots or only 5? Well, to tell you the truth, in all this excitement, I've kind of lost track myself. But Ian, this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk?
Los Angeles a été aussi un pôle plus que New Wave, était surtout un pôle... punk, en fait.
Marc Hurtado.
C'était quand même quelque chose d'incroyable d'avoir une sorte de mur du son. Ça me propulsait dans cette espèce de monde fantastique qu'avait écrit, par exemple, quelqu'un comme Raymond Roussel, qui est un écrivain français incroyable. Alors lui, Raymond Roussel vivait dans un château dans lequel il avait le cercueil de sa mère. Il avait construit une sorte de première caravane comme ça. Et avec cette première caravane... camion, quoi, il faisait que le tour de son jardin. Ensuite, il est rentré dans un bateau, il a fait le tour du monde, et sortait jamais de sa cabine. Et donc, du coup, il demandait à ses serviteurs, bon, ça ressemble à quoi, là? Alors, le serviteur décrivait, ça c'est, voilà, ça ressemble à ça, ça, ça et ça. Bon, ben, c'est exactement tel que j'imaginais quand tu es notre route. Et je trouve que ces groupes, justement, ressemblaient à ça, c'est-à-dire que, alors on représentait l'espace, l'intérieur d'un studio fermé sur lui-même, d'un espace fermé sur lui-même, sans le ressentir. Une sorte de peur totale de l'extérieur, de peur totale aussi de presque du soleil d'ailleurs. Hein. Il y avait un côté extrêmement sombre, claustrophobe, et c'est ce qui était le plus intéressant de tous ces groupes justement de Los Angeles et de San Francisco, c'était que dans un lieu comme ça qui était réputé que pour son côté presque dionysiaque avec ses fêtes autour du soleil, de la drogue et tout ça, eux étaient complètement fermés dans un monde intérieur, se catapultant dans un extérieur qui était uniquement une projection mentale, quoi.
Donc on voit sur la pochette de Black Flag, donc déjà Black Flag, le logo, pour moi le plus beau logo du monde, les 4 barres noires, logo qui a été créé par Raymond Petitbon, qui était un grand illustrateur de cette scène punk. Ces gens n'avaient pas du tout accès à la télé, aux médias et tout, tout passait par les fanzines, qui servaient à annoncer les concerts, à regrouper une scène en fait. C'était fait avec des photocopieuses... des dessins, un peu comme des dessins d'ado qu'on fait au lycée. Bon, assez bien fait, parce que c'est vraiment Petitbon, mais toujours une esthétique assez morbide. Mais c'était vraiment c'était responsable de leurs médias. Ces petits feuilles de chou, là, photocopiées, qui se passaient de la main à la main, et qui propageaient la bonne nouvelle, quoi. Les gens s'identifiaient, des groupes voulaient en être. Là, on voit, enfin, il y a plusieurs affiches de flyers, on voit les gens, les middle class, qui étaient géniaux. Bon, ils détournent Mickey. Il y a Fear, qui est un groupe important de Los Angeles. Des symboles, quoi, le Christ. Là, c'est aussi l'influence des situs sur les punks, c'est tout les dadaïstes, quoi. Enfin, les détournements, on prend des éléments qui existent, on les recycle. Il faut aussi remettre dans le contexte de fin des années 70, où t'étais les hippies qui géraient le monde depuis. Enfin, les hippies, c'est pas péjoratif, mais un peu les. L'industrie du disque qui gouvernait tout, la télé à une chaîne.
Aplatis-le, claque-les bien, emballe-les, pionniers perdus. Consommez de nouvelles frontières, mets-les debout et tu les cognes. Vos espoirs, vos rêves, vos désirs. Technologie pour les heures de loisirs, temps perdu, déchets, déchets, déchets. Pionniers perdus, explorez de nouvelles frontières. Je préférerais être désolé qu'en sécurité. Mais le prix monte, 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 monte. Pionnier perdu, consommer de nouvelles frontières. Fais-le, dépense-le, tu l'as mérité. Pourquoi ne pas le brûler ?
Los Angeles, c'était une sorte de ville dangereuse, quoi. Je me rappelle qu'à une certaine époque, on avait cette espèce de réputation sur Los Angeles comme une ville un peu crasseuse, un peu endormie aussi par rapport à San Francisco, qui était une ville, on va dire, plus gaie. Mais j'aimais vraiment ce côté dangereux. C'est-à-dire que les gens comme Zev, toute cette vague comme ça de musique qui venait de Los Angeles à l'époque, avait un côté détaché par rapport aux influences aussi. C'est-à-dire que on se demandait d'où sortait cette musique.
Slash Magazine, octobre 1979. Slash. Putain, pourquoi vous êtes si en retard ? Billy. On vient juste de quitter nos tafs. Qu'est-ce que vous faites comme boulot ? Je bosse dans une quincaillerie. Su. Moi dans un burger, chez Heavenly Grindelburger. Où ça ? C'est pas trop galère ? Les gens sont comme ci, comme ça. Ils me demandent toujours d'aller chercher quelqu'un d'autre. Slash. Mais pourquoi ? J'en sais rien. Chuck. Moi, je suis peintre en bâtiment. Frankie, moi, je suis informaticien pour une boîte, dans Orange County. John, je suis une pute. Non, non, je suis manœuvre. Tout ça est très suburban, non ? Parlez-nous de Long Beach. Vous dites souvent que vous venez de là. Oui, c'est pas cher. Il y a des studios, de l'espace. On a débuté là pour nos concerts, puis ça nous a échappé. Une partie du groupe avait un autre nom avant, n'est-ce pas ? On s'appelait les Fabulons. C'est quoi un Fabulon ? On a découvert que c'était le groupe qui jouait avec Fabian. Fabian and the Fabulons. Alors on a changé de nom. On se disait que c'était comme de la pelouse synthétique. Fabulone ? Et puis on avait cette fille, on avait cette blonde. Qu'est devenu votre premier groupe alors ? J'ai rencontré Sue quand j'étais à CalArts. Et elle hésitait à rentrer à Minneapolis ou Boston. Elle ne savait pas encore. Je lui ai dit, donne une dernière chance à la Californie. Viens à nos répétitions et tu verras après. Su, tu jouais dans les Technocrates avant ? Je jouais de la basse avec certains membres des Suburbs et aussi avec The Brainiacs. Slash. Su, pourquoi tu es si effacé, si timide quand tu es en dehors de la scène ? Alors que lorsque tu joues, tu es un truc intense, un peu flippant. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Est-ce que tu peux le décrire ? Allez, on va te soigner, parce que je préfère la musique que parler.
En fait, cette vague de Los Angeles, comme la vague aussi new-yorkaise qui précède la no-wave, il y a un point en commun entre tous les artistes. La plupart étaient sortis d'écoles d'art, autant peintres que sculpteurs, que musiciens, qu'écrivains, et avaient une sorte d'ouverture énorme par rapport à à l'art. Et ce qui fait la grande différence avec certains musiciens qui ne sont que musiciens, c'est que autant dans leurs paroles, dans l'imagerie, dans la puissance visuelle qu'ils apportaient, parce qu'à l'époque on n'avait pas de clip, mais les paroles étaient là pour nous transporter, pour nous amener les images que maintenant on a d'une façon très disgracieuse par les clips. Et on pouvait regarder que la pochette et lire les paroles et rêver dessus, et ça nous suffisait pour nous transporter les yeux clos, par exemple, dans un monde imaginaire qui était bien plus puissant qu'un clip.
Fantastic planet. Special grand prize, Cannes Film Festival. Fascinating, brilliant. I recommend it. Spellbinding science fiction.
Et donc tous ces groupes, je pense qu'il y avait cette ouverture culturelle incroyable et beaucoup d'influences qui viennent autant de la peinture que du cinéma justement qu'on a parlé comme ça, des séries B, des science-fiction, la plus artisanale, et d'écrivains qui vont jusqu'au surréalisme, au dada, jusqu'à aux années 60. On perçoit déjà dans ces musiques, sans connaître l'histoire personnelle de ces artistes, une ouverture totale sur une sorte de d'art total.
Ah, les sous-tissus arrivent. Et alors là, on la voit chanter Nuclear Reactor, avec boum boum boum. Là, elle baisse la tête avec les yeux fermés. Elle a les yeux fermés tout le temps, presque. Et ensuite, un gros plan sur la guitare, un gros plan sur elle, et puis là, une bulle où elle est toute seule dans le noir. Oui, voilà, c'est le moment où elle doit parler d'une... Elle évoque le nucléaire ou quelque chose comme ça. Donc il y a une fusée avec des boum boum. Et puis elle s'en va. Et ça finit par un noir. Avec l'image qui saute un peu là.
We're here with one of LA's most exciting new music bands. Made a great impression with Gidget Goes to Hell and their recent national appearance on Saturday Night Live. I'm wearing this outfit to protect me from the sprinklers. Suburban Lawns, janitor!
Le groupe Suburban Lawns en train de jouer Janitor. Ils étaient sur Saturday Night Live, c'est énorme. Si on veut percer commercialement, c'est difficile d'arriver à un meilleur endroit où passer live que Saturday Night Live.
Underwater,
kind of looks like they plucked a 15-year-old girl, complete with braces, out of church service and put her on stage. Quelqu'un dit, on dirait qu'ils ont pris une fille de 15 ans, avec les bagues incluses sur les dents, de l'office d'une église, et on l'a mis sur une scène. Groupe post-punk qui ont beaucoup de niveaux techniques. Avec une chanteuse inexplicablement étrange qui pas seulement regarde pas le public, elle regarde pas ses associés non plus, elle regarde par terre. Elle a des longs cheveux raies sur le côté. Elle a raison de se coiffer de cette manière-là. Les textes sont plutôt non-sens. C'est un peu pour la sonorité, ce genre de textes qui veulent quasiment rien dire.
Elle ne regardait pas le public, souvent. Donc oui, c'est un paradoxe.
C'est aussi une façon de jouer avec les codes.
Camille Lannes.
De chanter dans un groupe de punk et d'avoir une présence très froide et neutre.
Moi, je dirais pas neutre, je dirais... Parce que c'est quand même une présence hyper forte. Ouais, qui est en dehors des codes, c'est ça. Et qui peut être très déstabilisante, parce qu'en plus, en tant que public, en plus, d'autant plus, j'imagine. Mais elle est quand même super impressionnante, je dirais. Et je pense que c'est ça aussi, d'ailleurs, qui, en général, quand on monte la vidéo, les gens, ils sont... Comme en plus, elle a ses longs cheveux et une allure un peu presque enfantine, en fait, des fois, avec des petites robes à collerette et tout ça, c'est très... Ça fait un truc très violent, en fait.
Tissue never showed the slightest hint of a smile. Like a character from Eraserhead, Tissue has a riveting, grotesque beauty, sounding as if she just inhaled helium.
The Los Angeles Times, 21 janvier 1981. Comme un personnage d'Eraserhead, Tissue est dotée d'une beauté grotesque captivante. On dirait qu'elle vient tout juste d'inhaler de l'hélium. Elle chante un crissement oppressant, entrecoupée de gazouillis qu'elle bégait à la Yoko Ono. Pendant que sa voix s'envole sur Mars, son corps d'enfant dégingandé est comme absorbé, collé monté, ses petits poings battant l'air avec emphase. Elle semble éprouver une douleur incertaine et se tient debout comme si le plus petit geste était chargé de puissance, le minimalisme dans sa plus grande expression. Parmi les quatre Lones et camarades de Tissue, trois chantent et sont vocalistes. Tous ont un look de petit intello de la classe moyenne, ce qui ajoute une dimension à leur chanson à la B-52s un peu barge. Le groupe tire sa force de sa précision et de sa vitesse d'exécution, balançant des rythmes saccadés, rapides comme la lumière. Les Suburban Loans sont l'un des groupes les plus raffinés et imaginatifs qui aient émergé à Los Angeles ces derniers mois, mais la question que tout le monde se posait au Starwood n'était pas « vont-ils être signés ?» mais plutôt « est-ce que Tissue existe pour de vrai ? Est-elle vraiment pareille en dehors de la scène ?»
Il parle de sa beauté particulière et une voix comme si elle venait d'aspirer hélium, comme on fait pour s'amuser. Pour faire une voix comme ça.
Finalement, au niveau de la musique, c'est pas si surprenant que ça pour les groupes de cette époque. C'est finalement plutôt le chant qui est surprenant.
Ouais, et ce qu'elle fait à sa voix, parce qu'à des moments, elle a, je sais pas, je pense qu'elle fait un truc qui devient super nasillard.
Oui.
Qui est hyper bizarre et qui fait des grandes envolées un peu... Bah, surtout sur... C'est sur Janita.
Oui,
ouais. Juste avec le refrain, quoi. Boom, 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 boom.
Oh, my goodness.
tête en plus, voilà, quelque chose de très magnétique. Hein. Ça c'est sûr. Je trouve qu'elle te met un peu mal à l'aise. Qu'elle est très bien dans ce côté des concerts de l'époque, quoi. Enfin, qui est pas en plane, on est tous frères. Ce côté un peu habité, comme le chanteur des Pistols, enfin les espèces de pantins dadaïstes, t'es habité par quelque chose de mauvais, de froid. Je dis mannequin, c'est un mot qui revenait souvent, tu vois, de gestuel dada, quoi. Enfin, j'en sais rien. Un peu mécanique, mutant. Des articules et qui est habité par une force aussi, d'où la fascination de ces concerts aussi. C'est pas dans un concert de pop gentil, il se passe quelque chose, il y a une performance sur scène, quoi. Tu le ressens, enfin, dans les images quoi, de leur tube là, Janitor, là, il se passe quelque chose, quoi. Enfin, je pense que les concerts de Divo devaient être un peu comme ça aussi. Justement, qui préfigure aussi, moi je reviens toujours à ça, ce côté électro, c'est que les acteurs sont dans le public aussi, les gens sont sapés, sont en mode mécanique, enfin il y a un côté qui est pas passif dans le public, je pense. Déjà, c'est une scène, tous ces types, enfin moi j'y allais, j'étais dans les premiers concerts, ou les premiers punks, machin, qui étaient archi-lookés, qui étaient dans la espèce de gestuelle, provocatrice, un peu comme ça, avec des attitudes. Ouais, le public fait partie du show, quoi.
Suburban, c'est tout ce qui est banlieue un peu bourgeois, les maisons qui s'enchaînent. J'ai plutôt grandi là-dedans. Donc, pour gagner l'argent en hiver, on part avec l'appel chez les voisins, surtout les vieux, et on demande s'ils ne voudraient pas qu'on débarrasse leur allée de la neige. En été, c'est leur pelouse. C'est justement leur suburban lawn qu'on coupe avec les tondeuses. En tout cas, Suburban Lawns, c'est vraiment ça. C'est l'Amérique propre, plutôt blanche, dans des villes sympathiques et dans toutes les villes des États-Unis, il y a des suburban, des résidences, des maisons avec leur pelouse. Je ne sais pas exactement pourquoi ils ont choisi ce nom, mais ça évoque ça. Cette pelouse, elle a dit, quand on est jeune, c'est bien. On peut se battre sur cette pelouse, on peut jouer au foot et au baseball, etc. si on a assez. On a même fait un patinoire en hiver sur la pelouse de chez moi.
Quelque part, il y avait trois grands-parents de tout ça. C'était Laurie des Velvet, bien sûr. C'était les Stooges, Kiddy, Pops, Sky, Saxon, Explicit. Et puis, sans jamais oublier quelqu'un qui est toujours présent là-dedans, mine de rien. Même dans la musique la plus froide et la plus dansante, c'était James Brown. On est tous, quelque part, des enfants de James Brown. Parce qu'il y avait une extrémité chez lui, incroyable. Parce qu'il y avait une férocité... dans la façon de construire le son dans les années 70, comme personne n'allait construire, c'était que du rythme. Et ce rapport à l'Afrique aussi, ce rapport à l'obsession de la boucle, et sans la retrouver, catapulté directement, dans les années 70-80, on a retrouvé tout ça dans la New Wave, dans toutes ces choses-là, et ça, c'est vraiment une des choses qui m'a le plus marqué, quoi.
Final Fetish. The largest selection of alternative music in Los Angeles. Vinyl Fetish. Featuring the latest in imported and domestic publications. Vinyl Fetish. 7305 Melrose Avenue.
L'idée du fanzine ensuite qui est venue sur 15 sous tissu qu'on a édité là dernièrement et de récolter des dessins d'elle aussi et d'en faire un fanzine, c'était plus justement quelle est ta sous tissu à toi, dessine-moi ta sous tissu quoi. Comment toi tu la vois, qu'est-ce qu'elle, voilà. Et donc elle prend une nouvelle forme en un dessin et je trouvais l'idée assez belle. Voilà, donc 15 sous tissu.
Elle ne l'a jamais dit. Mais Sue Tichou était la petite fille du grand architecte américain et ami de Fernand Léger, William Hamby.
Nous sommes dans Something Wild, qui malheureusement s'appelle en français Dangereux sous tout rapport, starring Melanie Griffith, où le personnage joué par Melanie Griffith entraîne sa victime, jouée par Jeff Daniels, dans la réunion ou la fête des anciens de son lycée. Je crois que c'est le 10e anniversaire de la classe du terminal. Et c'est quelque chose qui se pratique beaucoup aux États-Unis tous les 10 ans. Moi, j'ai raté mon 10e, mais j'étais à mon 20e et j'étais à mon 30e. Parfois, il y a un groupe live, on danse, on se raconte un peu ce qu'on a fait, ou sinon on passe des disques. Et là, Jonathan Demme a eu l'idée incroyablement intelligente de prendre comme groupe live The Phillies, un groupe de New Jersey formidable. Et aussi, il y a eu l'idée incroyablement intelligente de prendre Sue Tichou pour incarner le rôle de la jeune épouse d'un des gars à cette réunion des anciens. Elle croise Melanie Griffith et Jeff Daniels, enfin les personnages joués par eux, et lui est très gêné parce que le type en question le connaît par le bureau. Il est en train de fuir son travail parce qu'il se fait kidnapper en gros par une grande séductrice jouée par Melanie Griffith. Le Something Wild en question, c'est vraiment elle. Et nous sommes dans la fête, on s'excite, Sue Tichou est enceinte, son mari reconnaît Charlie est très gêné. Il ne sait pas comment expliquer ce qu'il fait là. Elle s'appelle Peggy, le personnage joué par Sue Tichou.
Larry, this is Audrey. This, we've known each other.
We're lovers.
Well, only in the sense that, you know, all human beings are lovers. Audrey Briggs.
Pour moi, c'est un des plus grands rôles que Melanie Griffith n'a jamais réussi. Pareil pour Jeff Daniels, je dirais. Le film est très drôle, très comique pendant un certain temps. Ensuite, ça vire à un film d'horreur hitchcockienne. Et voilà, Sue Tichou, qui, comme Sue Tichou sur scène, ne sourit pas. Ah, elle tente un sourire, c'est un demi-sourire, parce qu'elle essaye de dire bonjour à Audrey.
Come on, Larry. Excuse us.
Elle a combien de répliques? 5? 6? Au moins. Oh, elle a 2 scènes. Là, on passe à la 2e scène. Trois scènes. Aura-t-elle une autre réplique? Là, on entend les Phillies au fond, un morceau très connu d'ailleurs des Phillies. Et le méchant qui débarque. J'adore quand Sue Tichou lui dit bonjour, si elle le fait.
Hi, Larry. I'm Ray.
Hi, Ray.
This is Irene.
Irene, cool. Hi.
This is Chloe and my wife, Peggy, Ray and Irene.
Hi.
Well, we know old Peg. Don't we, Peg?
Oui.
Hi, Ray.
Charles and I... Gigantesque. Voilà, elle avait une autre réplique et sa réplique était « Hi, Ray ». c'est justement le moment où ça tourne vers film d'horreur, un thriller hitchcockien. À partir du moment où le méchant débarque, et le méchant reconnaît le personnage joué par Sue McLean ou Sue Tissue. Et voilà. Et c'est dingue qu'elle a eu, peut-être dans toute sa vie, un seul petit rôle dans un très beau film où on ne pouvait pas l'oublier. Elle est inoubliable.
Salon de musique, album solo de Sue Tissue, enregistré en 1982.
J'étais très surpris des... Très surprise, c'est vraiment un ovni, c'est vraiment une musique qui est très étonnante, surtout venant d'une chanteuse d'un groupe de post-punk ou new wave. C'est, pour un album solo, c'est vraiment un virage à 180 degrés.
Arandel.
Je trouve ça très compliqué d'y voir un lien avec ce qu'elle a pu faire avec le groupe, et en même temps, c'est un album où la musique est complètement... C'est complètement cohérent, ça se rattache complètement à plein d'autres courants, très américains aussi, minimalisme, la musique répétitive, plein de liens avec Steve Reich, avec Terry Riley aussi pas mal, ce côté, ces motifs obsédants au piano, ces lignes de synthé par-dessus, cette construction en mouvement, comme ça, c'est très étonnant. Musique répétitive minimale, c'est beaucoup chez Terry Riley par exemple, on a souvent ce sentiment de vague, de choses qui reviennent perpétuellement mais qui sont jamais exactement les mêmes. C'est pas une tradition de pop ça. C'est plutôt la tradition de la musique minimale. Et c'est vrai que Terry Riley, c'est un des rares musiciens minimalistes américains qui n'était pas de New York. Mais de la côte ouest. C'est fascinant parce que on n'a pas tant d'exemples que ça, si tôt dans l'histoire de la musique du XXe siècle, d'albums qui font le pont comme ça entre la musique contemporaine et la pop, de gens qui viendraient de groupes pop qui s'intéresseraient à la musique contemporaine, des profils comme Björk par exemple. Qui sont venus eux aussi de groupes post-punk et qui aujourd'hui ont une musique, des intérêts en tout cas qui vont lorgner du côté de la musique contemporaine. Vers Messiaen, vers Stockhausen, vers ce genre de choses-là. Quoi. C'est fascinant d'un coup de découvrir qu'en 82, En tout cas, au tout début des années 80, il y a eu quelqu'un qui s'est autorisé elle-même à sortir du circuit des groupes indépendants américains post-punk, où on imagine que c'est quand même une petite scène où tout le monde devait se connaître à peu près, pour faire un album qui a dû être, on l'imagine en tout cas, assez peu compris. Ça devait demander un sacré courage quand même à l'époque. C'est quand même un sacré grand écart. Ce qu'elle a produit seule, ce qu'elle a enregistré seule dans un studio.
Tissue on the piano with an original composition. Her one and only album, Salon de Musique. Her one and only post-Suburban Lawns record. C'est beau. C'est pas rien. Bravo, Sue Tissue, wherever you are. C'est plutôt envoûtant. Et assez surprenant. Une vraie qualité, une vraie chose aboutie, dirais-je.
Moi, c'est une voix qui m'a pas mal évoqué Meredith Monk. Dans cette utilisation de la voix comme un instrument, comme ça, sans parole, qui vient pas porter un sens, mais qui vient, dans un album instrumental, comme ça, sur le dernier mouvement, d'avoir ces espèces de... pas d'envolée, parce que c'est pas lyrique, mais un côté, au contraire, très, très... très primal, très animal, très... Oui, ça relie encore plus cet album-là à une scène plus expérimentale, plus classique contemporaine, quoi. Ce qui est très étonnant là-dedans, c'est que c'est un disque one-shot, c'est pas le début d'une carrière solo, c'est un disque qui apparaît et elle qui disparaît après le disque. Donc en fait, il n'y a pas de carrière, c'est pas un point de départ, c'est pas forcément une fin non plus, mais en fait, ce disque, c'est un énorme point d'interrogation. C'est ça qui est fascinant là-dedans, c'est que c'est que des questions et c'est pas de réponse. C'est pourquoi ce disque, comment ce disque, où, pourquoi, d'où il vient, où il va, elle, où elle va après. Ce serait fascinant d'imaginer justement quel aurait pu être son parcours artistique, musical, après un disque comme celui-là. Est-ce qu'elle aurait développé justement une carrière à l'écart justement de la pop et est-ce qu'elle serait plutôt rentrée dans des circuits plus expérimentaux, plus... On a ce sentiment quand même que c'est quelque chose qui devait être porté en elle depuis longtemps, qu'elle a eu besoin de faire comme quelque chose de libérateur. En tout cas, je l'imagine comme ça, quoi. Et qu'une fois que ça a été fait, elle pouvait fermer la page et passer à autre chose, quoi.
Je crois que ce qui est le plus intéressant, c'est le sujet de sa disparition, enfin, la manière dont elle s'est retirée de la scène. Et je parlais de Richard Hell, qui s'est vraiment retiré aussi, mais il a fonctionné autrement, comme poète, comme auteur de romans, de livres, et il est ravi quand les jeunes groupes viennent vers lui pour prendre conseil, etc. Il assume la place, et il assume l'influence qu'il a eue, et il aime ça, et à juste titre, parce qu'on dirait qu'il est plutôt sain. Et dans les commentaires sur YouTube, il y a quelqu'un qui écrit « Elle a essayé d'enseigner pendant un certain temps, puis elle est devenue secrétaire dans un cabinet d'avocat. Depuis 20 ans, elle est avocate elle-même à Newport Beach, Californie. Est-ce vrai ?» Nous ne savons pas si c'est vrai ou pas. C'est une drôle de chose d'arrêter de faire la musique quand on a fait la musique, ce groupe qui a un peu quand même percé. J'admire certaines personnes qui ont arrêté pour un mélange de raisons, parfois pour la santé, parce qu'il y avait, ils avaient du mal à éviter la drogue, par exemple. J'admire cette capacité d'arrêter, alors que, et de se passer de la dose d'amour du public. Richard Hell, par exemple, disait vraiment qu'il arrêtait parce qu'il n'avait pas envie de mourir. Et il a eu 2-3 années de sa vie où il avait reçu énormément d'amour. Ça donne beaucoup de pouvoir. Et il y a des gens qui savent l'encaisser et savent faire avec. Il y a d'autres qui ont du mal. Mais quand on sait quoi faire avec, quand on sait le prendre et l'apprécier, c'est pas évident de s'en passer par la suite. C'est même jour et nuit. Et ceux qui arrivent à s'adapter à une vie sans cet amour du public, sans cette espèce de vague d'appréciation, cette espèce de câlin, je trouve ça plutôt admirable. Alors, à la voir, peut-être elle avait du mal à encaisser l'amour au départ. Peut-être elle avait du mal à vivre le public ou vivre sur une scène.
Commence à parler de ces artistes-là dont on n'avait pas parlé à l'époque et c'est presque comme si une nouvelle scène se mettait à émerger de tous ces personnages, de tous ces artistes qui n'ont pas rencontré un public à l'époque. Mais il y a un public aujourd'hui pour ces gens-là qui n'ont pas été entendus. Et il y a quelque chose de très très beau là-dedans, je trouve. D'aller retrouver ces morceaux de rêves de gens qui n'ont pas pu les réaliser. Donc, il y a presque quelque chose d'assez libérateur pour nous en tant qu'auditeurs aujourd'hui de pouvoir réaliser ces rêves qui n'ont pas été à l'époque en les écoutant, en leur donnant une place dans notre collection de disques, en imaginant comment ils ont pu être, et puis de savoir qu'on ne découvrira jamais ces morceaux en concert, en live, on ne fera jamais l'expérience de ce que c'est que d'entendre leur auteur. On ne peut que les imaginer et ça rajoute. J'ai l'impression qu'on découvre que du coup, ce mystère-là rajoute une dimension supplémentaire à la musique, qui n'est pas que dans les notes.
Tichou, la captive. Avec Arandel, Théo Acola, Marc Hurtado, Camille Lannes, Constance Leget et Eric Steele. Et la voix de Marie Placet. Attachée d'émission Inès De Bruyne. Coordination Irène Omelianenko. Prise de son Pierre Faucillon. Mixage Claire Levasseur. Une émission de Guillaume Lingre, réalisée par Céline Terce. Merci à Frédéric Magal du Point Éphémère, David Bradshaw, Billy Ronson et Aldo Hernandez.
Podcasts et réécoutes sont possibles sur le site de Création On Air. Demain, plongez dans le monde sonore de la boxe avec Vincent Detour, Dominique Henry et Luc Plantier.